Dans le manifeste du Parti communiste, publié en 1848, Karl Marx et Friedrich Engels ont fait appel pour l'abolition de la famille. La famille comme le capitalisme va disparaître, prédisait-il. Marx, voyez-vous, reniait les principes bibliques de la famille en disant que ces principes n'étaient pas dans le meilleur intérêt de la société. Son idéal était un centre culturel où les institutions publiques remplacent le foyer. Aussi longtemps que l'institution de la famille reste ferme et retient son indépendance culturelle, disait-il, l'État ne peut pas avoir la suprématie totale. Il faut remarquer peut-être que les communistes ont essayé et puis rejeté, en partie au moins, cette philosophie de Marx en ce qui concerne la famille. Au début, ils ont fait que le divorce soit très facile et ils ont même encouragé la promiscuité sexuelle. En plus, les mères ainsi que les pères ont été séparés de leurs enfants et placés dans les communes de travail. Leurs enfants ont été mis sous la tutelle de l'État. Et bientôt, ils ont compris que l'État était en danger. Maintenant, il souligne de nouveau les liens familiaux, bien sûr, pas jusqu'à imiter les principes bibliques. Mais je vous donne cet exemple pour vous montrer, même dans les systèmes athées, l'importance de la famille pour la société. La famille, c'est la base de la société. Et si la famille ou si la société est malade, cela voudra dire aussi que les familles sont malades. Il faut admettre, il faut dire que la famille, la première institution créée par Dieu, est menacée de plusieurs directions. Comprenez bien que je ne suis pas en train de vous dire que la famille ou l'institution de la famille va disparaître. Aussi longtemps que la parole de Dieu existe et que les hommes et les femmes la mettent en pratique, la famille ainsi que toute autre institution créée par Dieu subsistera. Jésus a dit que sa parole ne passera jamais. Mais il y a des attaques contre la famille, et si nous ne faisons pas attention, ma famille et votre famille au moins vont souffrir, même peut-être seront-elles détruites. La tragédie d'aujourd'hui, c'est que sans compter l'influence des systèmes athées tels que le marxisme, la famille ou les familles sont affaiblies. Un psychiatre a écrit il y a quelques années, « Le foyer n'est plus un cercle ferme ou fermé et donc isolé du monde. Le monde l'a envahi par sa clameur et sa confusion. Et cet envahissement a provoqué beaucoup de changements dans la famille. Et d'une longue liste de changements donnés par des experts, je vous présente seulement trois que je considère sont peut-être les trois les plus menaçants pour la famille. Le premier changement, c'est l'accroissement dans le nombre de divorces. Aux États-Unis, par exemple, en 1870, il y avait un divorce pour tous les 34 mariages. Actuellement, il y a un divorce pour tous les 3 mariages. Et en Californie, où habitent mes parents, c'est un divorce pour tous les 2 mariages. Bon, je vous donne les statistiques pour les États-Unis parce que je n'ai pas sous la main les statistiques pour la France. Mais en France, cela devient presque aussi mauvais. On peut lire les articles, j'en ai lu. Pour les États-Unis, l'augmentation de la population pendant les derniers 100 ans était plus que 300%. Mais dans la même période de temps, c'est-à-dire 100 ans, le nombre de divorces en pourcentage a augmenté plus que 2000%. Et autour de nous, combien de personnes connaissons-nous qui sont en train de se divorcer ou sont divorcées? Que dit Jésus à tout cela? Cherchez avec moi en Matthieu chapitre 5. On va lire au chapitre 5 les versets 31 à 30 et 32. il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le deuxième changement dans la famille, c'est le déclin d'autorité parentale. Personne ne peut mettre en doute le déclin dans le rôle des hommes, comme mari et comme père, par exemple. Dans trop de ménages, il n'y a pas de chef de famille, et s'il y a de chef, ce n'est pas le père. Cela veut dire que l'influence de l'homme comme mari et père est affaiblie ou n'existe pas du tout. Pourtant, il est très significatif que lorsque l'apôtre Paul écrit au sujet des parents, il distingue le père. Écoutez ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 6, le verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » À l'assemblée de Corinthe ou à Colossée, par exemple, il a écrit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Ce déclin dans l'autorité des parents ne se voit pas seulement dans le manque de l'influence du père, mais aussi dans l'abdication de l'autorité de tous les deux parents en faveur d'une monarchie des enfants. Un observateur a remarqué, nos familles ont la tendance d'être préoccupées avec les enfants, jusqu'au point où la vie des adultes comme parents est éliminée. Considérez la Suède, par exemple, où maintenant un enfant peut faire un procès contre ses parents s'il lui donne une fessée. Le résultat de ce déclin dans l'autorité des parents, c'est les enfants troublés. Ils n'ont pas de limite dans leur conduite. Et tout ceci provoque des mauvais sentiments et le manque de respect dans les enfants envers leurs parents et les mauvais sentiments dans les parents envers leurs enfants. Dans les 10 commandements, Dieu avait dit à son peuple, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolonge sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et c'est aux parents d'apprendre aux enfants de les honorer, sinon, qui le fera? Le troisième changement en ce qui concerne la famille, c'est un accroissement dans les rapports sexuels avant le mariage. Et le mot latin pour ce péché, c'est le mot « fornication ». C'est traduit en français par le mot « débauche ». Et il y a aussi un changement dans l'accroissement des rapports en dehors du mariage, c'est-à-dire l'adultère. Mais deux des résultats, sans parler des maladies physiques, sont soit des milliers d'avortements par des personnes peu soucieuses et trop lâches de prendre la responsabilité de la vie qu'elles ont créée, soit des milliers d'enfants illégitimes nés chaque année, des enfants qui n'auront jamais l'influence d'un foyer où tous les deux parents sont présents. Et sauf dans les cas rares, ces enfants, lorsqu'ils sont adultes, feront la même chose. À nos jours, il y a une obsession générale avec le sexe comme le moyen le plus sûr et le moins cher pour obtenir le bonheur. Sans parler de maladies, d'avortements et d'enfants illégitimes, il y a aussi le problème de la perte de confiance et de respect. Lorsque Marie trompe sa femme, il est très difficile pour elle de retrouver la confiance en lui et d'avoir du respect pour lui. C'est la même chose quand la femme trompe son mari. En plus, la personne n'a plus de respect pour elle-même. Encore plus, si on sait que l'on s'est donné au sexe avant le mariage, qu'est-ce qui dit qu'il ou qu'elle ne le fera pas avec quelqu'un d'autre après le mariage? Cette insouciance à l'égard de la dignité de la personne, soit le partenaire, soit l'enfant qui peut naître, et cette rébellion contre les bonnes mœurs établies par Dieu, attaque la stabilité du foyer parce qu'elle suscite la doute, le soupçon et le manque d'harmonie. L'apôtre Paul montre clairement que l'immoralité vient du fait que les hommes refusent de reconnaître le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et parce qu'ils se glorifient en eux-mêmes, et parce qu'ils font ce qui leur plaise, comme dit Paul en Romains 1, le verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà donc trois changements qui influencent la famille. L'augmentation du nombre de divorces, diminution de l'autorité des parents, et l'augmentation de l'immoralité sexuelle. Dans les études à suivre, nous allons traiter tous les trois problèmes. Mais pourquoi faut-il attacher beaucoup d'importance à ces changements? Premièrement, parce que la famille, c'est là où la vie commence. Dieu a dit à l'homme et à la femme qu'il avait créé, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Aucune société humaine a nurturé longtemps et avec succès la vie humaine en dehors de la famille. Elles ont essayé, mais échoué. Le communisme, par exemple, a pris des enfants du foyer. En la famille, deux personnes responsables viennent ensemble à leur plus grand accomplissement. On voit la femme, selon Genèse 2, le verset 18, comme un aide à l'homme, son vis-à-vis, comme dit la colombe. Elle est la seule créature de Dieu qui peut remplir ses besoins profonds, physiques, émotionnels et sociaux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Genèse 2, le verset 24. Selon le plan de Dieu pour l'homme et la femme, le développement le plus unique comme des personnes a lieu dans la famille. Je suis convaincu que le bien-être de la société dépend et s'est préservé dans notre famille, dans le foyer. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de Lot en Sodome pour voir ce que la société est devenue quand tous ces changements ont attaqué la famille. Regardez les raisons que Dieu a données pour le cinquième des dix commandements. En Deutéronome chapitre 5, verset 16, qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 5, verset 16. Et là, Dieu dit, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Pourquoi? Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, appelle ce commandement le premier commandement accompagné d'une promesse. Il n'y a pas de doute. L'histoire le démontre maintes et maintes fois que lorsque la famille reste ferme, la société est prospère. Lorsque la vie de famille est négligée, l'humanité souffre. Deuxièmement, la famille est importante parce que c'est là que la personnalité humaine est formée et que les attitudes vis-à-vis de soi et des autres sont créées. Il est dans la famille que l'homme développe sa compréhension de l'univers et comment il y joue son rôle. C'est dans la famille que l'homme arrive à comprendre la société et comment il doit agir envers les autres. Si les familles sont menacées, et elles le sont, d'où vient la menace? Nous avons considéré les changements qui influencent ou menacent la famille, mais quelle est la racine de ces changements, sans compter les influences extérieures? Après avoir tout considéré, la racine, la plus grande responsabilité tombe sur les parents irresponsables. Nous avons nous n'avons qu'à lire notre Bible d'apprendre que, sauf dans les cas très très rares, les enfants marchent dans la voie de leurs parents. En Juda, par exemple, dans l'Ancien Testament, Abiyam est devenu roi à la mort de son père Roboam, qui était le fils de Salomon. Comme il est le cas souvent dans l'histoire du peuple de Juda en 1 roi et 2 rois et en 1 et 2 chroniques, nous lisons au sujet d'Abiyam, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Et c'était la même chose en Israël du Nord, mais même pire. Lorsque Jéroboam est mort, son fils Nadab commençait à régner sur Israël. Et de ce nouveau roi, nous lisons, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de son père, en se livrant au péché qu'il avait fait commettre à Israël. » Tel père, tel fils. L'institution de la famille est menacée par les parents irresponsables qui permettent que les changements arrivent dans leur foyer et en participent. Ce que Dieu a dit aux Galates est vrai pour la famille. En Galates 6, le verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » La Bible enseigne que l'immoralité et le manque de bons principes moraux influencent chaque personne et chaque institution dans la société. L'apôtre Paul le dépeint lorsqu'il décrit la société païenne de son jour. Par leur impiété et par leur injustice, dit Paul, ils retiennent injustement la vérité captive, ils rejettent le Créateur de la vie. Le résultat de cette immoralité, de cette rébellion, montre-t-il, sont l'impureté de cœur et l'adoration de la créature, c'est-à-dire l'homme, au lieu du Créateur, c'est-à-dire Dieu. Ces conditions, enseigne Paul, créent de vains raisonnements et les cœurs sans intelligence qui corrompent la société. Et voilà donc une liste des choses qu'une société corrompue produit. Paul dit qu'il y aura toute espèce d'injustice. Et je lis de Romains chapitre 1, les versets 29 à 31. Il y aura donc toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Mais vous savez, lorsqu'il y a des familles chrétiennes, leur influence dans la société est positive et non pas négative comme nous venons de voir. Je vous présente très brièvement donc une liste de 10 caractéristiques d'un foyer chrétien. Premièrement, dans une famille qui est vraiment chrétienne, chaque membre va agir envers les autres membres comme il veut que les autres agissent envers lui. Jésus a enseigné en Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Deuxièmement, pour chaque membre de la famille chrétienne, la soumission au Christ en toutes choses sert comme le fondement sur lequel le foyer est établi. Troisièmement, la famille chrétienne rendra culte à Dieu en public et en privé. Qu'est-ce que c'est notre culte? C'est l'adoration de Dieu, oui, mais c'est plus que l'adoration seulement, parce que Paul dit en Romains chapitre 12, le verset 1, que c'est le sacrifice de notre corps vivant. Le sacrifice vivant de notre corps, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et ce mot culte dans ce passage sera mieux traduit un service raisonnable. La quatrième caractéristique d'un foyer chrétien, c'est que ensemble les membres vont travailler pour surmonter tout problème qui se présente. Ils luttent ensemble. Ce n'est pas chacun pour soi. Cinquièmement, la famille chrétienne partage ses joies et ses bénédictions aussi bien que ses fardeaux et ses tristesses. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, dit Paul, Galates 6, le verset 2. Sixièmement, le sentiment de faire partie d'un tout est une source continuelle de force. Quelqu'un a dit la solitude est le sentiment le plus effrayant dans le monde. Et il faut dire que là où il y a la peur, c'est difficile d'agir comme on veut. Mais les liens familiaux d'un foyer chrétien éliminent cet handicap de solitude et donc donnent la liberté d'accomplir beaucoup de choses que l'on n'aurait pas pu accomplir tout seul. Septièmement, le père chrétien n'irritera pas ses enfants, mais il les élèvera en les corrigeant et les avertissant selon le Seigneur. Éphésiens 6, le verset 4. Huitièmement, le fils et la fille chrétiens obéiront leurs parents selon le Seigneur. Dans le foyer chrétien, la neuvième caractéristique, c'est qu'il y a de l'honnêteté, de l'intégrité. Il n'y aura pas d'hypocrisie, ce qui fait qu'il y aura une confiance absolue l'un dans l'autre. Dixièmement, dans la famille chrétienne, les parents prendront le temps d'écouter leurs enfants et de voir les choses comme les enfants les voient avant de faire une décision. Bon, cela ne veut pas dire que les enfants vont faire les décisions, c'est que les parents vont essayer de comprendre les sentiments et les besoins de leurs enfants avant d'agir. Bon, je peux continuer à faire une longue liste de caractéristiques d'un foyer chrétien, mais je m'arrête là pour cette fois. Il suffit de dire que si le monde était rempli de familles chrétiennes, il y aura beaucoup moins de mal et de souffrance. Les bonnes familles chrétiennes sont le sel de la terre et la lumière du monde, comme chaque chrétien l'est. Les bonnes familles chrétiennes commencent avec ma famille et votre famille. Et dans les études à suivre, nous allons ensemble apprendre des choses qui feront de nous les meilleurs époux, les meilleurs parents et les meilleurs enfants. Notre but, c'est d'être les hommes et les femmes et les enfants de Dieu. Je voudrais bien avoir vos suggestions et vos questions aussi bien que vos commentaires pour ces études. Pour vous qui êtes seul, c'est-à-dire vous n'avez pas de mari ou femme ou enfant ou parent, les principes de ces études seront pour vous aussi, parce que ce sont des principes pour tous les chrétiens à suivre. Jusqu'à la prochaine étude donc, que Dieu vous bénisse et Amen.